L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local. Aujourd'hui, on pousse la porte du centre d'accueil d'urgence à Château-Gontier qui cherche des bénévoles pour assurer les permanences. Entretien avec Laurette Audouy de Femmes Solidaires 53. L'association relance ses activités avec la rentrée et réagit à l'actualité. Et lundi, premier épisode de notre série de la semaine consacrée à la coutellerie du Maine-en-Joux. Petite présentation avec Antoine Faucheux. Mais tout de suite, un point sur l'actualité en Mayenne. Des chiffres toujours en hausse pour la Covid-19. Le taux d'incidence reste au-dessus de la barre des 50 cas positifs pour 100 000 habitants. Il passe de 52,1 à 57,6 en quelques jours, selon l'agence régionale de santé. Le taux de positivité des tests, lui, baisse légèrement de 5 à 4,8%. 9 patients sont actuellement hospitalisés dans le département, mais aucun d'entre eux n'est en réanimation. Mais bonne nouvelle, plus aucune classe n'est fermée en Mayenne justement à cause du coronavirus. On passe de 8 classes fermées il y a 10 jours à 0 aujourd'hui, selon les chiffres publiés par l'Académie de Nantes. Dans la région des Pays de la Loire, 4 classes sont encore fermées, contre 49 il y a 10 jours. Et puis en foot, Laval perd sa place de leader avec un match nul 1-1 vendredi soir face au Red Star. Au classement, les Tangos sont juste derrière Bastia. À Château-Gontier, le centre d'accueil d'urgence cherche des bénévoles. Il a été créé en 1991, puis repris en 2000 par différentes associations avec le CIAS, le Centre Intercommunal d'Action Sociale. Situé rue du 11 novembre, ses 3 chambres et son espace commun sont destinés à accueillir des sans-abri pour 3 nuits maximum. Une des chambres est occupée par Brahim qui vient d'arriver à Château-Gontier.
Alors on a même la clé, c'est-à-dire on est libre. Comparé à d'autres institutions, à telle heure vous rentrez, etc. Là, on a un abri, puis on est bien accueilli par les bénévoles. Si le travail débouche, ce qui serait sympa, c'est si j'arrive à faire 15 jours, j'aurais peut-être et normalement des aides qui viendraient pour le Fonds de solidarité logement ou d'autres choses du style, c'est ce qu'on m'a expliqué. Et en attendant, j'allume un cierge. Si on n'a pas un logement, on ne peut pas être domicilié. Si on n'est pas domicilié, on ne peut pas avoir de logement. Mais je suis confiant. En plus, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, une convocation pour un job. J'apprends aussi à revivre un peu. J'entends les oiseaux, plein de choses du style. Il y a des endroits où, à part le bruit des gyrophares, je n'entends rien. Dans le futur, si ça se passe pour le travail, j'espère pouvoir faire du bénévolat ou des choses pour redonner un peu ce qu'on m'a, voilà, le soutien qu'on nous offre. Et puis il y a un moment où quand on baisse les bras, malheureusement, les choix sont minimes. En plus du repli sur soi, on ne se croit plus en nous-mêmes, on régresse, on se laisse dépérir. Mais juste avoir un endroit où on peut poser nos bagages, on peut se raser, se laver, sentir un peu bon, c'est le minimum pour beaucoup. En fait, s'il n'y aurait pas des endroits comme ceci, on ne saurait pas la chance qu'on a en fait.
Une permanence qui est assurée donc tous les soirs de 17h à 18h par un ou deux bénévoles qui se chargent de l'accueil et d'aider éventuellement les sans domicile fixe. Parmi eux, Joseph, engagé auprès des Restos du Cœur. Il vient environ une fois par semaine et nous présente les lieux.
Alors c'est un hébergement simple. Il y a une salle commune où il y a les machines à laver, les frigos et autres. Et puis il y a 3 chambres qui permettent d'héberger jusqu'à 4 personnes, puisqu'il y a une chambre qui peut être double en cas de s'il y a un couple. Voilà. C'est hébergement d'urgence dans le sens où ça ne peut pas devenir un hébergement définitif. Les personnes qui ont un besoin d'hébergement s'adressent d'abord au centre d'action sociale, obtiennent une autorisation de venir à cet hébergement. Ils sont hébergés ici une nuit, deux nuits, trois nuits, suivant leurs besoins, suivant leurs demandes. Nous, on les accueille quand ils arrivent vers 17h le soir. On leur alloue une chambre dans laquelle on leur fournira des draps, de la vaisselle pour qu'ils puissent cuisiner. Certains passent un jour, deux jours et ils repartent un peu réparés. Ils auront bien dormi, ils auront des vêtements propres. Il y a un petit stock alimentaire. J'ai une maison, j'ai eu un travail, j'ai eu cette chance dans la vie. Rendre un peu de la chance que j'ai eue à des gens qui en ont moins, ça me paraît quelque chose de tout à fait naturel. Et ça va dans les deux sens. Un jour, on peut en avoir besoin. Un jour, on peut participer, on peut aider. C'est ma vision de la vie humaine. Voilà. Un coup, on aide, un coup, on est aidé. Et la roue tourne.
Un échange valorisé aussi par Anne Lebossé-Champion, responsable du service Action sociale du CIAS de Château-Gontier. Elle tient à préciser la particularité du centre. Les bénéficiaires peuvent rester toute la journée.
Depuis des années, en fait, on trouvait que c'était difficile de redemander aux personnes à 9h de retourner à la rue pour revenir le soir. Donc on a testé pendant quelques temps le fait d'avoir une double serrure. Donc en fait, les personnes, depuis des années, ont la possibilité d'avoir la clé de leur chambre, ce qui, si bien qu'ils peuvent y rester toute la journée s'ils le souhaitent. Et au besoin, ça leur permet aussi de laisser leurs affaires dans leur chambre et de faire des démarches, notamment par rapport à leurs droits sociaux ou par rapport à des rendez-vous autour de la santé, sans pour autant qu'il y ait un risque ou qu'on leur prenne leurs affaires, tout simplement. Et puis ça leur permet aussi de se reposer, parce que quand on marche toute la journée ou qu'on fait du stop ou qu'on traverse un peu soit le département, la région ou même la France, c'est beaucoup plus reposant de pouvoir se reposer toute la journée, quoi. Souvent on est complet dès le lundi, ils viennent le lundi ou le jeudi pour 3 à 4 nuits, et souvent dès le lundi à 9h, 9h30 il n'y a déjà plus de place. Et d'autant plus en période d'hiver ou même de canicule. Pendant la canicule notamment, les grosses chaleurs, on leur laisse la possibilité dans tous les cas d'y accéder directement, tout comme pendant les grands froids. On essaye dans tous les cas à veiller à ce qu'une porte soit restée ouverte pour accueillir à tout moment de la journée. Comme les personnes arrivent, ça arrive que lorsqu'ils viennent au CIAS, si on n'a plus de place, malheureusement, on essaye de retravailler avec une orientation en lien avec le 115. On essaye d'appeler les autres centres d'accueil d'urgence sur le secteur. Mais ça arrive, ouais. Très peu au continu sur Château. Je pense qu'en lien avec le 115, il y a la halte de nuit qui se met en place et on essaye de trouver des solutions. Mais malheureusement, je pense qu'il y en a quand même qui doivent rester, notamment des hommes seuls, parfois à la rue.
Et si vous aussi vous souhaitez être bénévole pour le centre d'accueil d'urgence, vous pouvez contacter le CIAS de Château-Gontier. C'était Vampire Weekend avec Hey Punk. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio. Et nous parlons aujourd'hui d'une association Femmes Solidaires 53 qui a une actualité assez riche avec d'un nouveau cours de self-défense proposé à Bonchamp tous les mois, ou encore le renforcement de la permanence de la police à la police de Laval tous les vendredis après-midi. On en parle avec Laurette Audouy. Beaucoup d'associations étaient un petit peu au ralenti avec le confinement puis le déconfinement, mais là avec la rentrée, les activités reprennent et c'est aussi le cas pour l'association à Laval Femmes Solidaires 53. Je reçois aujourd'hui sa présidente Laurette Audouy, bonjour.
Bonjour.
Justement, la rentrée pour Femmes Solidaires 53, en quoi ça consiste? Quelles sont les nouveautés?
Alors, pour Femmes Solidaires 53, même si on avait repris un petit peu, mais un peu au ralenti depuis le mois de mai, ça consiste à maintenir d'abord les permanences à notre local, donc tous les lundis après-midi de 14h30 à 17h30, d'intensifier notre présence au commissariat de police, puisque désormais nous y allons tous les vendredis après-midi de 14h à 17h, et également de tenir un stand d'information et de sensibilisation dans la galerie marchande de Carrefour, le premier samedi de chaque mois de 10h à 16h. 14h, pardon.
Donc 10h, 14h.
10h, 14h, voilà.
Très bien. Et justement, donc stand d'information pour présenter les activités de l'association. Et votre sujet, c'est donc de manière générale des actions pour les droits des femmes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, justement, revenir sur le but de l'association et ses actions pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Oui, tout à fait. Donc Femmes Solidaires, c'est une association qui existe au niveau national. Il y a 190 comités dans toute la France et les DOM-TOM. C'est une association qui existe depuis 1945, puisqu'elle est issue des mouvements de la Résistance, qui a changé de nom entre-temps. Et c'est une association féministe, laïque, apolitique, et qui défend les droits des femmes, qui lutte pour une éducation non-violente, une éducation au respect. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous avons pas mal d'animations en milieu scolaire, habitat jeune, MFR, enfin tous les lieux où on peut rencontrer du public, jeune ou moins jeune d'ailleurs, puisqu'on a aussi nos ciné-débats qui s'adressent au grand public.
Donc l'idée, c'est quand même de sensibiliser au maximum le public à ces thématiques ?
Oui, dans la mesure où on pense que tout est lié en fait, et que c'est en changeant l'éducation dès le plus jeune âge, en essayant de lutter contre tous les clichés sexistes qui sont véhiculés aussi bien par la publicité, les magazines, un certain nombre de médias, le marketing, etc. C'est en changeant ces clichés qu'on pourra arriver à une certaine égalité. Et en même temps, ce serait aussi un moyen, certainement, de lutter contre les violences qui sont faites aux femmes actuellement.
Les violences faites aux femmes, justement, c'est pour ça que vous maintenez cette permanence et que vous intensifiez d'ailleurs cette permanence à la police de Laval tous les vendredis. Mmh. Vous avez commencé là, du coup, ces permanences ?
Oui, on a repris là depuis le mois de mai, je crois, juin, oui. On a repris, effectivement. Oui, alors notre présence au commissariat, elle s'inscrit un peu dans notre ligne générale. On aimerait bien aussi qu'en étant justement dans ce lieu, ça le désacralise un peu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on franchit la porte du commissariat que tout de suite on va dénoncer son conjoint ou sa conjointe violente. C'est un lieu où on peut simplement parler, s'exprimer, voir un peu où on en est de la procédure, ce qu'on souhaite. Et en aucun cas, il ne s'agit de pousser les femmes qui ne sont pas encore prêtes à porter plainte, mais simplement essayer de les accompagner dans leur cheminement.
Et le fait que vous soyez là, c'est plus rassurant aussi ?
Oui, je pense que c'est plus rassurant. Je pense aussi que ça sort un peu du cadre institutionnel, finalement, puisqu'on est une association et que on est exactement les mêmes qu'ici, dans notre local, en fait.
Donc on rappelle, ces permanences, elles sont organisées tous les vendredis après-midi, c'est ça ?
Tous les vendredis après-midi de 14h à 17h, tout à fait.
Donc dès à présent, ces permanences en tout cas à retrouver. Autre actualité de cette rentrée, ce sont des cours de self-défense que vous proposez à Bonchamp.
Oui, tout à fait. Donc c'est une activité qui existait déjà l'année dernière, jusqu'au mois de mars. C'est une activité qui est proposée pour les femmes victimes de toute forme de violence, pas seulement les violences conjugales ou intrafamiliales, mais ça peut être harcèlement au travail, ça peut être toute violence sexiste, sexuelle, etc. Et donc c'est organisé par notre association. Par contre, c'est financé par Tout en moto 53, qui est une association avec laquelle nous sommes partenaires et au niveau national et au niveau départemental, qui est également une association féministe par le biais de la pratique de la moto, c'est conduire sa vie, c'est un petit peu leur devise. Et donc tous les ans, depuis 3 ans maintenant, elles nous offrent le bénéfice de leur tombola annuelle, et c'est grâce à ça qu'on finance les cours de self-défense, donc une fois par mois. Et donc, on a passé une convention avec la SPTT Laval. Et ces cours sont donnés donc, par un coach de la SPTT.
Et donc, le but, c'est aussi de savoir comment réagir lors d'une agression, par exemple dans la rue ou autre. Ça peut être même au sein du couple.
Oui, ça peut être ça. Mais c'est surtout, je pense, la reprise de confiance en soi. C'est-à-dire se réapproprier un peu son corps aussi, ses réactions. Et puis, reprendre confiance en soi et éventuellement, effectivement, pouvoir esquiver des coups, les parer, etc. Donc, on essaye de mettre ça en place, mais le coach est particulièrement attentif à ne pas reproduire des situations qui pourraient mettre les femmes mal à l'aise, en fait, même si, ben, effectivement, on apprend à éviter...
Il y a des mises en situation quand même.
Oui, quand même, oui. Mais ça se passe dans un très bon climat et c'est vrai qu'on s'amuse bien en même temps.
Donc un vrai engouement en tout cas par rapport à ces cours proposés.
Je pense que ça plaît bien et que c'est important.
Et dans l'actualité, alors même de manière plus nationale, mais ça vous impacte aussi forcément au niveau local, il y a la mise en place il y a quelques jours d'un bracelet anti-rapprochement. Donc c'était une loi qui avait été votée en décembre 2019 déjà, mais il va être testé dans 5 juridictions seulement, donc pas forcément ici à Laval. Mais est-ce que pour vous c'est déjà un premier pas?
Oui, mais c'est vrai qu'on a attendu quand même longtemps avec entre le vote de la loi et la mise en place et du décret d'application et de la réelle mise à la disposition des juges de cet outil. Alors c'est vrai que les associations le demandaient depuis longtemps. Il existe en Espagne depuis plus de 10 ans.
Comment ça fonctionne justement ce bracelet pour...
Oui, alors donc c'est un bracelet électronique qui est mis, je crois que c'est à la cheville, d'autres disent au poignet, donc ça dépend sans doute des modèles, du conjoint violent. Et en fait, il y a un périmètre qui est fixé par le juge. Et si le conjoint violent enfreint ce périmètre, il y a aussitôt une alarme qui est envoyée et qui déclenche l'intervention des forces de l'ordre. Et je pense, d'après ce que j'ai vu, qu'il y a également la victime détient un boîtier qu'elle doit garder sur elle et qui également lui envoie un signal quand le conjoint violent se rapproche. Ce qui peut d'ailleurs, j'ai lu aussi quelques réserves, même si globalement on va saluer cette initiative, mais quelques réserves parce que les femmes sont quelquefois un peu stressées quand elles entendent justement le boîtier se mettre en place et qu'elles se disent que il est pas loin, il est voilà. Mais en même temps, c'est aussi rassurant parce que ça veut dire que ça fonctionne et qu'il y aura une intervention.
Oui, après, toute la question, j'imagine, c'est de savoir, une fois que l'alarme est donnée, qu'est-ce qui se passe?
Oui, normalement, il y a intervention des forces de l'ordre, parce que le bracelet, en fait, il est proposé par le juge, et c'est vrai que dans certains cas, il faut l'accord du conjoint violent. Parce que si c'est sur le plan pénal, je pense que ça peut être imposé à titre de peine, mais ça peut être aussi proposé à titre de remplacement de détention provisoire ou remplacement de peine. Et là, il y a besoin de l'accord du prévenu, en fait. Et si c'est fait par le juge aux affaires familiales, c'est à titre civil, dans le cadre d'une ordonnance de protection, ça, il faut aussi l'accord du conjoint violent. Bon, c'est vrai qu'ils ont intérêt, je pense, à accepter, parce que sinon, le procureur est prévenu et dans ce cas-là, ça peut se transformer très vite en peine de prison. Mais c'est vrai que c'est quand même important de le signaler.
Et alors là, vous attendez son application ici en Mayenne ?
Oui, on attend, même si la Mayenne et les Pays de Loire, d'une manière générale, je crois, ont vu moins de cas de féminicide que dans d'autres régions de France. Mais c'est vrai que c'est quand même un outil, me semble-t-il, important pour essayer d'éviter le pire, en fait.
Et un outil qui pourrait être généralisé d'ici quelques mois?
Apparemment, il semblerait qu'ils pensent le généraliser à tout le territoire français d'ici le mois de décembre.
Donc on va suivre un peu cette histoire et voir si en décembre, ici en Mayenne, ce sera généralisé.
Oui, et puis il faut espérer aussi une rapidité d'exécution entre les faits qui peuvent être constatés ou la plainte de la victime et puis la mise en place de ce dispositif. Parce qu'il y a toujours un petit décalage quelquefois. Et même si normalement une femme ne doit pas repartir du commissariat, par exemple, sans protection si elle a porté plainte. Mais bon, nous, on a toujours un petit peu peur parce que le moment justement de la séparation et le moment où la femme se décide, par exemple, à porter plainte, ça peut être un moment très, très difficile. Donc on est depuis un certain temps maintenant... On dit aux femmes d'être très très vigilantes au moment où elles se décident à partir, de ne pas être seules, parce qu'on a vu des cas de femmes où la violence, pour lesquelles la violence s'est vraiment déclenchée au moment où le conjoint s'aperçoit qu'il perd le contrôle, il perd son emprise, il perd sa proie en fait.
Et donc c'est ouais, sur ce moment-là où il faut faire très très attention.
Tout à fait, oui.
Pour éviter le pire.
Oui.
Donc on comprend bien en tout cas que l'association s'occupe beaucoup de toutes les violences faites aux femmes, mais il y a aussi l'avant, j'ai envie de dire, plutôt la prévention, la sensibilisation. Avec, vous en parliez au début, des ciné-débats qui sont organisés. Est-ce qu'il y en a déjà qui sont prévus là pour les prochaines semaines, les prochains mois ?
On en a encore trois jusqu'au mois de décembre. Et il y aura également Adam en octobre et Scheherazade en décembre. Donc Scheherazade en particulier représente pour nous le premier volet d'un gros dossier qu'on aimerait bien traiter cette année sur la prostitution des mineurs. Donc là, bon, on saute un petit peu sur l'occasion de Scheherazade, mais en même temps, après, on aimerait bien faire une sorte de colloque, en fait, avec intervention de spécialistes, parce que la prostitution des mineurs, elle est un peu trop, quelquefois, banalisée, y compris chez certaines jeunes filles, en fait. Donc c'est important, je pense, de tirer un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus. Voilà. Et donc, on a un autre dossier aussi qu'on aimerait bien... finalisé, parce qu'en fait, il était déjà presque bouclé en mars et finalement, tout s'est arrêté. C'est sur les mutilations sexuelles féminines. Donc ça, ce serait bien de faire quelque chose début février, puisqu'il y a une journée là aussi qui est consacrée à ce fléau. Mais ce n'est pas facile parce qu'on ne connaît pas la jauge des salles, on ne sait pas exactement combien de personnes on peut inviter. Enfin, donc,
oui, c'est difficile de prévoir à l'avance.
Un petit peu difficile, oui. Oui, tout à fait.
Mais donc, en tout cas, ces deux dossiers, la prostitution des mineurs et les mutilations génitales féminines, sont les deux dossiers, les deux gros dossiers de votre année, là ?
Oui, ce sont les deux gros dossiers qui nécessiteront le plus de moyens et également le plus de mobilisation, en fait. Parce que sinon, le reste, c'est un petit peu du quotidien, aussi bien beaucoup d'animations pédagogiques qui sont déjà prévues. Et puis, donc les ciné-débats. On a aussi, et ça c'est autour du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences, on a aussi une pièce de théâtre qui est prévue à l'avant-scène de Laval, donc qui s'appelle « Pourquoi tu restes ?». Et le titre est tout à fait important, parce que c'est souvent la question qu'on pose aux femmes. Mais enfin, pourquoi tu restes ?
C'est ça, assez évocateur déjà, juste le titre.
Oui, tout à fait.
Donc en effet, on le voit, beaucoup d'événements prévus, beaucoup d'actualités. S'il y avait un message que vous voudriez faire passer alors aux femmes, à la population de manière générale ?
Alors c'est peut-être un petit peu ambitieux à toute la population, mais...
Aux auditeurs en tout cas.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, c'est-à-dire que le message, c'est d'essayer... C'est l'affaire de tous, donc c'est un petit peu d'essayer d'être vigilant dans son quotidien, dans ses réactions... dans ses plaisanteries, dans ses choix, à ne pas véhiculer, à continuer à véhiculer des vieux clichés sexistes qui en fait sont le berceau des violences, parce qu'en fait la violence c'est aussi l'exercice d'un pouvoir d'un des conjoints sur l'autre. Or, il n'y a absolument rien à la base qui permet à l'un ou à l'autre, d'ailleurs, d'exercer un pouvoir sur la personne qu'il ou qu'elle est censé aimer et respecter.
Très bien, bah, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Laurette Audouy d'avoir été avec nous. On le rappelle donc, vous êtes la présidente de l'association Femmes Solidaires 53.
Oui, merci à vous.
C'était Parov Stellar avec Booty Swing. Vous écoutez l'autre radio, l'agité du local. Aujourd'hui, nouvelle série radio. On prend la direction du bord de la Mayenne à la Rocheneuville, à l'écluse de la Rocheneuville plus précisément, où Antoine Faucheux a ouvert en 2017 la coutellerie du Ménanjou. Il revient sur son histoire.
Eh bien, quand je suis revenu de Thiers, là où j'ai fait mon apprentissage, il n'y avait pas d'emploi en coutellerie en Mayenne, donc j'avais pas d'autre option que de créer mon activité. Donc c'est ce que j'ai fait dès mon arrivée en Mayenne. Pour pouvoir en vivre, ça n'a pas été facile au début, mais j'ai été surveillant en internat au lycée agricole à Laval. Puis j'ai travaillé à droite à gauche aussi pendant cette période-là, tout en créant mon entreprise. Au début, je faisais surtout de l'affûtage pour les professionnels, donc je me déplaçais avec mon matériel dans le coffre de ma voiture. Et puis après, j'ai eu un camion, donc j'ai commencé à travailler dans mon camion. Après, on a acheté une maison avec ma femme, j'ai fait mon atelier dans le sous-sol. En 2017, j'ai sauté sur l'opportunité de pouvoir installer l'atelier dans une ancienne maison éclusière. C'est un appel à projet qu'a lancé le département pour la revalorisation des maisons éclusières. Donc j'ai pas hésité. Et puis dès début 2018, on est venu s'installer ici. On fabrique des couteaux, on fabrique une gamme de couteaux que j'ai créé. J'ai créé le premier couteau en 2012 quand j'étais apprenti à Thiers. Couteau que j'ai créé pour un petit concours qu'on s'est fait entre apprentis à la fin du CAP. Ensuite, ce couteau-là, je l'ai décliné en couteau de table, en couteau de cuisine. Et puis, on travaille des bois qui viennent de la Mayenne. On travaille avec des paysagistes, avec des forestiers, ça peut être du bois de haie, ça peut être des bois... On peut travailler en fait avec n'importe quel bois, parce que nous, on fabrique des manches de couteau avec le bois. Et le manche de couteau, il n'y a pas beaucoup de matière, donc avec peu de bois, en fait, on fait beaucoup de choses, quoi, avec le manche. Alors c'est un couteau que j'ai créé pour le territoire de l'Anjou. En fait, les formes ne sont pas dues au hasard, c'est-à-dire que le couteau, quand il est ouvert, le manche, c'est un méandre de la Mayenne, donc la rivière qui passe en Anjou, parce que la Mayenne s'est longtemps appelée la Maine s'est longtemps appelée la Mayenne, et la Maine, c'est une contraction de la Mayenne, voilà. Et donc j'ai voulu rendre hommage en fait à ce territoire en lui offrant un couteau, comme il en existe beaucoup en France, hein. Je crois que c'est à peu près 2500 couteaux régionaux qui existent en France, et il n'y en avait pas pour le territoire de l'Anjou. On a oui, des particuliers, des professionnels. Pour les professionnels, ça va être surtout des restaurateurs pour les couteaux de table, voire les couteaux pliants. Je travaille avec un restaurant étoilé qui est à Rennes, qui s'appelle le Hollen, et qui a des couteaux pliants sur sa table. Voilà. Après, on travaille beaucoup avec les particuliers, notamment pour les stages ou les touristes qui passent sur la rivière ou sur le halage, qui repartent avec un souvenir de la Mayenne, un petit morceau de la Mayenne, un petit morceau de bois de la Mayenne. Donc c'est assez sympa.
Et on entendra la suite de notre reportage à la coutellerie du Ménanjou. Ce sera demain, même horaire. Mais tout de suite, on s'intéresse aux événements de ces prochains jours dans votre département en Mayenne, avec demain à 20h30 au Théâtre de Laval, une pièce de théâtre, Les Écœurchés, une pièce de théâtre poétique et décalée sur la quête identitaire de deux jeunes adolescentes, une création moderne inspirée du conte de Cendrillon. C'est proposé par la compagnie de théâtre lavalloise Anima Compagnie. Réservation sur le site du Théâtre de Laval ou par téléphone au 02 43 49 86 30. Autre spectacle ce mercredi à 20h à la salle FCC à Cossé-le-Vivien, c'est le festival Les Embuscades qui se poursuit avec une soirée et un double spectacle. D'abord Jean-Jacques Vanier qui présentera Colère, un seul en scène décrivant toutes les colères quotidiennes de l'artiste et proposant un réel travail de composition. Et un vrai moment de rire, évidemment, ça c'est l'ADN du festival. Et puis en deuxième partie de soirée, BP Zoom, qui présentera un spectacle intitulé Mélange de temps, un spectacle poético-clownesque selon leurs mots, avec deux clowns qui raffineront aussi bien les familles, mais aussi vous replongeront vous en enfance. Vous pouvez réserver sur l'adresse, par mail pardon, avec l'adresse reza@lesembuscades.fr ou par téléphone là aussi 02 43 91 79 63. Et puis on avance dans la semaine avec un autre spectacle à ne pas manquer, ce sera pour le coup jeudi à 20h à la salle des fêtes d'Andouillé, Podesser et c'est toi qu'on adore par Leïla K. C'est un spectacle de danse intense, un mélange de sensibilité et de force, 5 fois primé à l'international, rien que ça, c'est pour ça que je vous disais à ne pas manquer, où la talentueuse danseuse mélange les styles et propose un spectacle à la fois éclectique et moderne, vous pouvez réserver là aussi par mail à 3e@lernet.fr. C'est la fin de notre émission L'Agité du local, à suivre à 19h Solénoïde, à 21h la discothèque du programmateur et à 21h l'Aléatoire, une émission musicale avec du rock rocambolesque, des chansons acrobates, du jazz désaxé ou de la techno biscornue. Je vous laisse découvrir ça. Je vous donne donc rendez-vous demain à 12h15 pour une nouvelle édition de L'Agité du local. À demain.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.